Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le malgache Ahmad Ahmad a été élu jeudi 16 mars dernier président de la Confédération africaine de football CAF lors de l'Assemblée générale élective. Il succède ainsi au Camerounais Issa Hayatou qui dirigeait l'organisation depuis 1988. Monsieur Ahmad, le nouveau patron de football africain, ancien joueur, entraîneur et ministre de la pêche de son pays, avait mené campagne en promettant une transparence dans la gestion de la CAF et la fin des pratiques obsolètes. Certains observateurs estiment que son élection aura un impact sur le football africain en général et en RDC en particulier. Qu'en pensez-vous? Nico Kalambay est à la réalisation de ce programme mis en onde par Alain Ngoy sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Cette émission a été coordonnée et présentée par J.R. Lungebo Luabung Anji à l'adresse pa@radiokapi.net. Vous pouvez nous rejoindre ou nous appeler au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
À l'actif de l'ancien président de la CAF, bon nombre d'observateurs sont unanimes que Issa Hayatou a apporté de l'argent à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, par exemple, la CAF a un siège et grâce aux partenaires, la Confédération a des moyens de sa politique avec des capitaux sûrs. Il a en outre mis en route des compétitions de haute facture qui ont boosté les niveaux du football africain et ont permis à ce dernier d'atteindre aujourd'hui les stades de professionnalisme. On peut citer entre autres la Ligue des Champions africaine, les Champions League, les CHAN, la CAF avec des coupes de clubs et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, U20, U17, pour ne citer que cela. Mais cependant, dans son passif, là où sa politique a péché, c'est le fait du manque de transparence dans la gestion quotidienne du football africain. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de prendre une décision pour attribuer une compétition à un pays, alors Issa Hayatou considérait en tout cas la CAF comme une propriété privée. Alors il a fait tourner l'organisation donc par rapport à sa seule vision. Et là, il faut noter que le droit de veto pour attribuer une compétition à un pays lui revenait à lui seul. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, vous nous avez rejoint pour débattre ensemble avec nous de manière citoyenne. Jean-Claude, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles, bonjour à toute votre équipe.
Alors Jean-Claude, j'ai présenté l'actif de l'ancien président de la CAF et aussi ce qu'on lui reprochait et qui a d'ailleurs coûté sa débâcle au niveau de la présidence. Qu'est-ce que vous proposez comme priorité, parce que Ahmad a dit clairement qu'il travaillera pour la transparence dans la gestion de cette institution.
Oui, merci JR. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous dans vos préliminaires. Vous avez épinglé tout ce que moi je devrais aussi dire. Mais ce que je vais proposer au nouveau dirigeant, à Madame le Malgache, c'est la transparence comme vous l'avez dit. Parce qu'à un moment donné, nous avions constaté, vous et moi, qu'il y avait une gestion opaque, que ce soit au niveau de nos fédérations et que ce soit au niveau de la Confédération africaine de football. Vous vous souviendrez que la sortie de M. Issa Hayatou, c'est la conséquence logique du départ de M. Joseph Blatter. Et vous vous souviendrez avec moi que dans certains couloirs, on disait que même Gianni Infantino, l'actuel président de FIFA, n'était pas d'accord. Il est venu soutenir les Malgaches, Ahmad Ahmad. C'est pour tout simplement dire que non, avec l'avènement d'Infantino, où nous devons croire qu'il y a de la lumière, nous espérons aussi qu'au niveau de la Confédération africaine de football, il y aura des histoires qui vont marcher. Parce que nous ne devons pas toujours parler de la démocratie, au niveau celle des dirigeants des pays, au niveau du président africain, même au niveau de l'instance de la Confédération africaine de football, il faudrait qu'il y ait alternance. Parce que imaginez-vous, depuis 1988, à l'époque, moi j'avais au moins 5 ans, si la mémoire ne me trahit pas, comment se fait-il que depuis 1988 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons un seul dirigeant? Non, nous disons qu'il a beaucoup travaillé pour la Confédération africaine de football, mais il était temps et il est temps de faire un changement. Et pour l'avenir, Jean-Romain Longuet.
Oui, alors quand je parlais de Issa Hayatou, qui apportait de l'argent à la Confédération africaine de football, qui aujourd'hui a permis donc à la CAF d'abord d'avoir un siège grâce aux partenaires, et aujourd'hui avoir des capitaux frais pour permettre à ce que cette institution puisse survivre et le plus longtemps possible, la longévité aujourd'hui de la CAF. Est-ce que vous pensez que Ahmad Ahmad a un travail à faire pour capitaliser cet actif?
Tout à fait. Moi, je dis que Issa Hayatou fut un grand manager et c'est grâce à ses stratégies managériales que la CAF a fait doter d'un siège, la Ligue des Champions, comme vous l'avez parlé, et même l'argent, plus d'un million de 500 000 dollars pour les champions d'Afrique, tout ça. Et c'est ce que nous aussi nous demandons à Ahmad Ahmad. Il ne se limite pas à faire des promesses au moins vaines. Il doit aussi se battre comme son prédécesseur pour que la CAF aussi puisse aller de l'avant comme l'UEFA. Et se battre aussi, vous avez entendu, en 2018 et 2026, la Confédération africaine de football présentera au moins 9 candidats. Il ne se limite pas à ce niveau, même 10, même 12. C'est ce que nous sommes en train d'attendre pour lui.
Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui le Madagascar, qui n'est pas un pays, en tout cas, compté parmi les plus grands pays de football en Afrique, puisse briguer en tout cas ce mandat pendant ces moments où nous avons, en tout cas l'Afrique a besoin également de booster les niveaux du football et jusqu'à atteindre vraiment les niveaux, les sommets du professionnalisme?
Oui, votre crainte est justifiée. C'est aussi, moi aussi je suis en train de partager cette crainte. Mais parlons par exemple au niveau des arbitres. Nous avons aussi les Gambiens, et nous avons un arbitre de talent, les Gambiens. J'oublie encore son nom, sinon je vais me rappeler. Mais la Gambie n'est pas un pays du football. Mais quand vous voyez comment cet arbitre est en train d'arbitrer même au niveau mondial, vous dites que non, c'est question d'avoir une dose de volonté et puis l'Afrique va continuer à booster comme on a boosté avec Issa Hayatou et Jean-Romain.
Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir appelé. Mais est-ce que vous pensez que cela peut avoir des implications ou encore des effets au niveau des fédérations, des différentes fédérations locales?
Exactement. Là, je suis tout à fait d'accord, parce que la manière de diriger, vous avez vu, même pendant la locution d'Ahmad Ahmad, moi je dis que, j'ai toujours dit que à un moment donné, nous allons constater qu'il y aura, on va appliquer sinon le système de moindre effort, les faibles ou les corrupteurs vont s'éliminer. Il y aura vraiment rigueur, Jean-Romain.
Voilà, merci beaucoup. Donc, on parle déjà d'un printemps de football africain au niveau des fédérations. Ça pourrait réellement avoir un impact. Nous allons voir ça avec Maître Adrien qui est à Kananga également. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Jean Lungembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Alors, que faire pour capitaliser les acquis de la direction, en fait, la direction ou la gestion même de Issa Hayatou, et aussi changer un peu la politique pour, disons, améliorer cette gestion en ce qui concerne, par exemple, les décisions que Issa Hayatou prenait de manière un peu cavalière?
Oui, merci beaucoup, JR, de la parole que vous m'accordez. Il faut d'abord commencer par saluer le courage de Monsieur Ahmad Ahmad. Il a osé, il a réussi, parce que lorsque vous voyez les élections qui s'organisaient au niveau de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou était presque un candidat unique. Donc lui a osé, il a réussi. Je pense qu'il ne faut pas être aussi vraiment ingrat. Il faut dire que M. Issa Hayatou a laissé la barre haute, ce qui fait que Ahmad n'aura pas vraiment la tâche facile. Il faut d'abord recourir à l'histoire pour se rendre compte que l'Afrique n'avait qu'un seul représentant. Même en 1974, lorsque la République du Zaïre participait à la phase finale de la Coupe du Monde à l'Allemagne, c'était l'unique représentant. Ce qui fait que sous les auspices de Issa Hayatou, l'Afrique est arrivée jusqu'à 5 candidats, ce qui est d'abord une très bonne chose. sous les auspices de Issa Hayatou, il y a trois pays africains qui ont au moins joué le quart de finale d'une phase finale de la Coupe du Monde. Je cite rapidement le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Donc, ce qui fait que M. Ahmad n'aura pas vraiment une tâche facile. Il faut que lui d'abord se batte pour qu'un pays africain puisse atteindre premièrement donc au moins une demi-finale de la phase finale de la Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait. Ce sera vraiment un exploit pour lui. Deuxièmement, il faut que M. Ahmad puisse d'abord se battre, comme Jean-Claude venait de le dire, par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, parce qu'il y aura une galopation des nombres de pays qui pourront prendre part. Il faut que l'Afrique prenne au moins 9 ou 10 places, comme lui-même, monsieur le président de la FIFA, venait de le dire. Il faut qu'il y ait aussi de la transparence. C'est vrai, JR. Au jour d'aujourd'hui, on peut peut-être, à mon humble avis, faussement accuser monsieur Issa Hayatou, mais il faut reconnaître que toutes les décisions, Issa Hayatou ne les prenait pas tout seul. Il avait ce qu'on appelait le comité exécutif de la CAF, hein, dans lequel comité il y a aussi notre président de la Fédération Congolaise de Football, siégeait aussi. C'est autour de cette commission restreinte que les décisions se prenaient. Bon, si les gens estiment que ce qu'eux appellent transparence, il faut que ça se passe comme ça se fait en Europe, bon, moi je ne saurais pas les en tenir rigueur. Hein, ce n'est que normal. Mais par rapport à la question que vous avez posée à mon ami Jean-Claude, par rapport au pentran, donc à la répercussion, je pense, JR, ici nous devons retenir que le football au niveau africain, c'est un football qui est politisé. Hein, ça m'engage. Mm-hmm. Donc ça dépend d'un régime à un autre. Vous allez vous rendre compte que il y a de cela deux jours passés, en Algérie, il y a eu un nouveau président de la Fédération algérienne de football. Pourquoi? Parce que celui qui était là était soutenu par un ancien régime qui était au pouvoir. Aujourd'hui, comme il y a de cela deux ans, l'Algérie venait de connaître un autre régime. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse changer le fusil d'épaule. Mais moi, je pense que M. Ahmad, pour réussir, il doit d'abord se mettre à l'idée qu'au jour d'aujourd'hui, Issa Hayatou a fait un pas, à ce qu'on sait d'abord le plan financier. Aujourd'hui, le champion d'Afrique, à ce qu'on sait la Champions League africaine, n'aura plus encore $1,500,000 américains, mais il en aura $2,500,000. Au niveau de la Coupe de la Confédération, le pays champion, on l'a vu avec le Cameroun, ne devrait plus avoir 1,5 million, mais c'est 4 millions. Donc, ce qui fait que lui, étant donné que, comme je viens de le dire, la barre est haute, il doit aussi vraiment travailler dans les faiblesses d'Issa Hayatou, mais il faut reconnaître qu'un humain reste humain avec l'œuvre qui est toujours imparfaite.
Voilà.
Il ne peut pas être parfait comme Dieu j'y est.
Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. Et là, nous résumons, vous rejoignez l'internaute et d'autres messages qui nous ont été envoyés, où on a accusé Hayatou d'avoir fait de la CAF une propriété privée. Mais Ahmad doit impérativement démocratiser l'institution CAF et faire tourner l'organisation de ses compétitions. Alors éviter de confier l'organisation d'une compétition, surtout après celle de 2023 attribuée à la Guinée, qui est sans appel à candidature. Voilà, merci beaucoup Maître Adrien d'avoir appelé 081-800-90-63-15 ou encore le 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Faites-vous enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, dans votre commune ou dans votre groupement.
Peut-on se faire enrôler dans n'importe quel centre d'inscription de son choix?
Non. L'électeur doit se faire enrôler uniquement au centre d'inscription le plus proche du lieu où il habite, à l'intérieur de sa commune ou de son groupement. En effet, on vote là où on s'est fait enrôler.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Nous avons en ligne notre invité, Pierre-Célestin Kabala-Mwalambui, qui est analyste sportif. Bonjour Pierre-Célestin. Voilà, on a des petits soucis tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous parlons de Malgache Ahmad Ahmad, qui a été élu jeudi 16 mars dernier, président de la Confédération africaine de football, lors de l'Assemblée générale élective. Il succède ainsi au Camerounais Issa Hayatou, qui dirigeait l'organisation depuis 1988. À l'actif de cet ancien président de la CAF, bon nombre d'observateurs sont unanimes que Issa Hayatou a apporté de l'argent à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, la CAF a un siège et grâce aux partenaires, la Confédération a des moyens de sa politique avec des capitaux frais, des capitaux sûrs. Il a en outre mis en route des compétitions de haute facture qui ont boosté le niveau de football africain et ont permis à ces derniers d'atteindre le stade de professionnalisme. Alors, on peut citer la Champions League à l'africaine, le CHAN, la CAF avec les coupes des clubs, la CAN, le Coupe d'Afrique des Nations, le U20, le U17, pour ne citer que cela. Mais cependant, on lui reproche également beaucoup, beaucoup de choses. C'est, disons, par rapport à sa politique de gestion, c'est le fait de manque de transparence dans la gestion quotidienne du football africain. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de prendre une décision pour attribuer une compétition à un pays, les droits de vote lui revenaient à lui seul. Voilà, donc autant de reproches. Et vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages sur notre page Facebook. Alain Kadielé, qui nous écoute à la frontière rwando-congolaise, pense que toute organisation a besoin d'une alternance pour changer les choses. Le nouveau président va sûrement amener un nouveau système de fonctionnement. Monsieur Ahmad a le soutien du monde en général. On va voir si notre invité est encore en ligne. Monsieur Pierre Célestin, bonjour. Voilà. On va prendre peut-être le message. Philemon Moujiji, vous êtes à Bukavu, au sud Kivu, dit que l'élection de Monsieur Ahmad montre que les présidents des différentes confédérations de football des pays africains veulent voir le changement au niveau du football en Afrique, mais il craint que ce que Monsieur Ahmad a promis ne se réalise. Il exhorte à être pragmatique et ne pas s'ingérer dans les problèmes des équipes. Alors pour Alexis Loukélois, Monsieur Ahmad doit faire très attention dans la réalisation de ses promesses, c'est-à-dire il doit commencer par résoudre les problèmes nécessaires qui gâtent souvent le football africain, comme les erreurs arbitrales, le tirage au sort échangé dans les différents éliminatoires. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux prédécesseurs viennent de dire, à savoir Jean-Claude et Maître Adrien. Ils ont reconnu le mérite, parce que souvent en Afrique, c'est ça le mal. Quand il y a un nouveau vent, on a tendance à oublier même les bonnes choses qui ont précédé. Mais nous devons savoir une chose, que dans toute vie, l'alternance est tout à fait exigée. Même si Hayatou a fait des bonnes choses, mais le fait qu'il ait introduit des antivaleurs comme la dictature au niveau des décisions, moi je crois que à ce niveau-là, et aussi couplé avec son ancienneté, quel que soit les biens qu'on a fait, il est normal qu'à un moment donné on puisse partir. D'ailleurs, quand on cherche à faire la politique, que ce soit dans n'importe quel domaine, on est appelé à aller faire du bien. C'est parce qu'on a quelque chose à donner à la communauté qu'on se prévaut candidat ou ceci, cela à un certain poste. Donc, c'est tout à fait normal que quand quelqu'un accède à un poste politique ou je ne sais dans quel domaine, qu'il fasse du bien, parce que c'est pour cela qu'il est venu et il a fait des promesses. Mais alors, je me dis avec Ahmad Ahmad, les choses peuvent aussi bien marcher si du moins il tient sa parole. D'autant plus qu'il a une bonne technicité. Quand on voit son cursus, joueur, entraîneur, ministre, tout ça, donc ça permet à quelqu'un d'utiliser vraiment non seulement c'est qu'il a toujours vu les autres faire, mais plutôt du vécu qu'il a lui-même augmenté. Alors, en amenant une telle expérience, s'il veut vraiment la capitaliser afin de booster plus loin le football, moi je crois que c'est une bonne chose. Et il faudrait que lui aussi ne tombe pas dans les pièges de son prédécesseur, parce qu'il va trouver un comité exécutif déjà corrompu, dans une léthargie qui laissait l'autre faire. Et quand il va hériter aussi ce genre de mécanismes, certainement qu'il trouvera aussi des brèches qui peuvent lui rapporter un peu plus parce que cette initiative
Valérie, est-ce que vous avez vous redoutez comme les autres que le fait que monsieur Ahmad ait été également cité parmi les personnalités du football du monde qui ont été corrompues, ça pourrait ne fût-ce que jouer aussi sur son mental?
Oui, ça peut aussi jouer parce que Kiabi Boira, surtout qu'on dit en politique que les pouvoirs corrompent, peut-être qu'au début il cherchera à gagner la confiance, mais on va plus les juger après, hein, quand il aura fait une année, deux ans, où est-ce qu'il va amener, parce que c'est lui qui a déjà été soupçonné de corruption comme ça, ou qui a déjà été corrompu, c'est qu'il maîtrise les rouages. Et certainement qu'il peut nous voiler, mais au fil et à mesure, il va glisser.
Alors quel est l'effet que cela produira? Alors quel est l'effet que cela produira dans cette élection donc au niveau des fédérations locales en Afrique et particulièrement en RDC?
Oui, ben il peut apporter sa technicité au niveau des fédérations dans différents pays pour promouvoir le football. C'est surtout au niveau de la promotion que j'attends beaucoup plus de lui du point de vue technicité parce que c'est un technicien de football d'abord. Ce n'est pas seulement un amoureux de football qui est devenu président de la CAF, mais c'est d'abord un technicien de football et qui a gravi un bon cursus. J'aimerais qu'il puisse faire bénéficier à ses frères africains cette expérience en organisant beaucoup de fédérations et aussi en remettant surtout de l'ordre dans l'arbitrage. Il y a aussi certaines injustices dans nos compétitions. Hein. S'il peut quand même aussi sanctionner les arbitres qui viendront avec des sentiments, moi je crois que ça sera une bonne chose parce qu'il n'y a que le maire qui doit gagner, on ne doit pas aller dans
Merci.
Des favoritismes.
Merci beaucoup ingénieur Valérie d'avoir appelé des Kindou. On revient à vous, notre invité, je crois que la ligne s'est améliorée, Pierre-Célestin Kabalamoulamboui, bonjour.
Bonjour JR et bonjour aux amis auditeurs.
Voilà, merci beaucoup d'être en ligne avec nous et aussi d'accepter d'échanger avec les uns et les autres. D'entrée de jeu, on sait que c'est la fête déjà de l'actualité. Les Malgaches a succédé au Camerounais Issa Yatou qui a dirigé l'organisation africaine de football depuis 1988. Mais quelles peuvent être les priorités de ce nouveau président à la tête de la CAF?
Bien, je crois que c'est avant d'arriver aux priorités, je voudrais dire aux auditeurs que dans les structures comme la Confédération africaine de football, plus on y reste et surtout qu'on les dirige, on crée un club d'amis. Ça devient une affaire d'amis. Et dans toutes ces structures, il y a une réalité que beaucoup ignorent, c'est que souvent c'est une personnalité, deux ou trois, qui entoure l'élément essentiel et qui font le fondamental et l'essentiel. Les autres viennent un peu comme des accompagnateurs. C'est souvent cela. Parfois, les autres sont quelque peu observateurs. Ils laissent faire le président, le secrétaire général, et ils sont les premiers à se plaindre. Et quand ils sont un petit groupe à le faire, parfois, ils commettent des erreurs, parce que le travail est immense. Ils sont parfois sollicités par de gros intérêts à travers le monde, surtout quand il s'agit de droits de retransmission de la télévision, l'attribution de ces droits et l'attribution de droits d'organisation des compétitions sportives. Et dans cette attribution, il y a également une réalité que beaucoup des sportifs ignorent, c'est qu'il y a des pays qui se présentent, comme la RDC par exemple, qui, à la dernière minute, se désistent. Et c'est ce qui oblige parfois les décideurs à pouvoir se passer de certains avis et de certaines propositions. Ils se disent, il faut aller consulter tel pays, bon, s'il est capable de le faire, juste pour ne pas perdre la face. Et c'est ce qui a conduit quelquefois M. Ayatou à prendre contact avec certains dirigeants politiques pour obtenir l'organisation régulière des compétitions sportives. Cela dit, qu'est-ce que Gianni peut nous apporter? Qu'est-ce que Ahmad plutôt peut nous apporter? C'est que ce qu'il peut nous apporter, c'est d'abord le fait que pour avoir joui de la confiance et de l'appui, ça je le souligne, l'appui du nouveau président de la FIFA, eh ben Ahmad peut avoir la chance des réussites. Je peux lui donner 30-40%, mais cela ne suffit pas. C'est vrai qu'il a l'appui du nouveau président de la FIFA, mais qu'il a fait aussi par rapport à ses relations un peu tumultueuses avec le président sortant de la CAF, parce que vous savez que M. Yatou était l'un des amis de Sepp Blatter, et qu'il n'a pas eu les faveurs, surtout qu'il a été aussi candidat à la présidence de la FIFA, il n'a pas été très bien considéré par l'actuel président de la FIFA. Donc ce que ça peut nous apporter, c'est qu'il faut d'abord l'amélioration de ses relations avec la FIFA. Mais ce qu'il peut également apporter, c'est le nouvel esprit. qui doit rejoindre le principe qui dit que le meilleur dirigeant s'inspire toujours des erreurs et des égarements de son prédécesseur pour mieux concevoir son programme. Il n'a pas de programme particulier, nous l'avions suivi, mais devant lui, il a d'énormes défis à relever. L'arbitrage continental et surtout l'équilibre dans les attributions des compétitions et des programmes de la Confédération africaine de football. Vous savez que M. Ayatou a payé du fait de la mauvaise considération qu'avaient de lui tous les pays du Nord, qui estimaient qu'il en faisait la part belle à l'Afrique centrale. Il y a eu le Nord, le Sud et même l'Est qui se sont ligués pour pouvoir le faire partir. Peut-être que M. Ahmed va tenir compte de cette réalité, mais ne pas oublier que ce qui a fait la défaite de Ayatou peut également se retourner contre lui. Donc il faut absolument de l'équilibre dans tout cela. Troisième chose, je pense qu'il y a le problème des compétitions elles-mêmes. Nous sommes fiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais cette Coupe d'Afrique des Nations de football, pour certains comme moi, ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Parce que nous amenons à cette compétition des joueurs professionnels préparés, entraînés, payés en Europe et avec des entraîneurs qui sont des étrangers en grand nombre, qui viennent chez nous et qui jouent sous les drapeaux africains. Est-ce que cela reflète l'image exacte, la valeur fondamentale du football africain? C'est quelque chose qu'il faut voir. S'ils viennent, il faut qu'ils nous aident à pouvoir relever les niveaux au niveau des continents et cela nous ramène au club. Quels sont les statuts de nos clubs dans tous nos pays? Est-ce qu'ils sont dignes d'être des clubs professionnels? Il y a tous ces faits-là auxquels devra s'attaquer M. Ahmad. On va bien continuer avec notre échange.
Voilà, nous retenons que il y a ce défi de l'arbitrage continental qui l'attend, et aussi l'équilibre dans l'attribution des compétitions et des programmes de football à l'Afrique, et les problèmes de compétition elles-mêmes. Vous avez cité la CAN qui constitue l'arbre qui cache la forêt, et aujourd'hui les statuts des clubs qui ne sont pas clairs. Alors donc là, ce sont des défis, vous l'avez présenté, mais vous savez tout de même, Monsieur Kabbala, que Issa Ayatou, tout le monde est d'avis qu'aujourd'hui, c'est lui qui a apporté de l'argent à la Confédération.
Ah oui, GR, je suis tout à fait d'accord pour avoir été tout près de dirigeants. À la mort du président Ignacio Tessema, nous avions que Aizel Communication comme agent commercial. Et les produits étaient tout à fait minimes. Il a fallu une réorganisation des structures commerciales pour avoir un boom financier, si vous voulez. Et avec toutes ces recherches entreprises par les task force de M. Issa Ayatou et tous ceux qui l'entouraient, ils ont pu dégager d'innombrables ressources financières. Aujourd'hui, avec le droit de retransmission à la télévision, les retombées de la publicité dans les stades et surtout les sérieux qui a été imposé à chaque pays pour que la Confédération africaine de football soit le propriétaire de droits de retransmission et de publicité lors des compétitions sportives. Oui, il faut admettre que c'est Issa Ayatou, avec son esprit managérial, qui a pu faire hausser les retombées financières. Mais cela a quelque peu obnubilé l'esprit de notre homme. Il a vieilli, il est entré à 50 ans comme Ahmad aujourd'hui, il avait 51 ans. Eh bien, il en a 70 aujourd'hui, nous sommes de la même génération. Il faut dire que quand on évolue comme ça, parfois, on atteint le paroxysme et la courbe s'étasse. Là, c'est ce qui m'est arrivé.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un printemps au niveau des secteurs de football en Afrique? C'est vrai, même au niveau du monde, ça a bougé à la FIFA. Maintenant, c'est autour de la CAF. Est-ce que demain, on peut s'attendre aussi de tels effets au niveau des différentes fédérations locales en Afrique?
Voilà. C'est l'un des éléments essentiels. La CAF a contribué à la stabilisation des structures fédérales dans beaucoup de pays où l'instabilité ne pouvait même pas permettre la bonne évolution du football continental. Mais hélas, au fil des jours, on a constaté que c'était des empires qui se créaient et qui s'appuyaient justement sur les relations très amicales et même complices de certains dirigeants fédéraux avec la Confédération africaine. Cela, c'est le mauvais côté, c'est l'autre face de la chose. Eh bien, admettons que maintenant que M. Issa est parti, c'est son empire qui s'écroule. Et que demain, nous n'aurons plus des élections truquées avec des gens qui sont corrompus qui se retrouvent quelque part, les jeux sont déjà faits, et les candidats opposants n'ont pas de place, ils arrivent, ils ne peuvent même pas prendre la parole, et c'est des comités qui se reconduisent comme ça, même s'ils sont lacunaires, et déficitaires sur le plan d'initiative et de gestion managériale. Ah ben, nous pensons que cela va changer. Mais c'est un peu les défauts congénitaux des Africains. Il ne faut pas que c'est qu'on reproche à M. Issa aujourd'hui puisse également devenir le point fort de M. Ahmed demain. C'est ça, il ne faudra pas qu'il s'entoure aussi des coquins, ou plutôt, je voulais dire, des copains, pour que cela porte préjudice au football continental.
Merci beaucoup, Monsieur Kabbalah. Nous vous gardons encore en ligne. Il est temps peut-être d'écouter, si vous le permettez, d'écouter d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau dit débat. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Alors, Maître Sonville, vous êtes vous sportif parce que vous supportez des grandes équipes de Lubumbashi. Et vous êtes même membre. Voilà. Quel regard avez-vous portez-vous sur cette actualité, Maître Sonville?
Oui, monsieur JR, je commence d'abord par vous saluer. Salut à tous les auditeurs de la radio Capi et notre doyen Kabbalah Mbouy. Par rapport d'abord à l'élévation de M. Ahmed au poste de président de la CAF, je l'ai joué, puisque nous tous nous attendons une alternance, au moins il y a une alternance dans le monde sportif. 30 ans à la tête, au sommet d'une fédération telle que la CAF, c'est beaucoup. Mais néanmoins, par rapport à ce que dirait que M. Issayatou a mis au sommet de cette confédération, il y a quand même eu quelques améliorations. Tout ça, il a instauré le CHAN, et l'Afrique du Sud a pu organiser la Coupe du Monde pour la première fois. Le continent africain a organisé cette Coupe du Monde. Il y a la majoration du nombre d'équipes au niveau de la Coupe du Monde. Et en tout cas, ce que je félicite encore d'Issa et tout dans ce comité, du fait qu'il a évité l'ingérence de la politique de tout un pays dans le football. Moi, en tout cas, chapeau bas. Mais en ce qui concerne M. Ahmad, il a aussi beaucoup à faire. Il y a question ici de la continuité de l'administration. Je peux l'inviter à essayer à apporter certaines réformes au sein du football et à essayer aussi d'avoir un œil regardant sur les contrats des joueurs. Des joueurs qui sont transférés dans des continents étrangers, soit au sein même de l'Afrique dans des pays africains. Pour que les joueurs soient sécurisés, hormis le cas des joueurs, il faudra aussi qu'ils songent aussi aux entraîneurs, contrôler les contrats des entraîneurs. Ici au Congo, par exemple, en RDC, M. JR, combien d'entraîneurs ont des contrats avec leurs équipes respectives, ils restent à côté. Et comment est-ce que ces contrats, quand même certains ont ces contrats-là, est-ce que ces contrats sont respectés à la loupe?
Oui, je crois que Maître Sonville, là je parlerai sous réserve de d'autres invités, et combien sont ces entraîneurs qui ont suivi le cursus également normal au niveau de la FIFA par exemple, et qui ont des licences FIFA ou peut-être d'une organisation crédible. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas entrer en profondeur là-dessus. Une autre invitée pourrait nous éclairer, mais si vous avez une idée, vous pouvez peut-être nous éclairer également.
Oui, de toute façon, il y a au moins 16 entraîneurs ici en RDC qui ont des licences A, qui ont eu à être formés par les instructeurs reconnus par la CAF au niveau même de la RDC, pour ne pas citer un discutant qui a formé le Moulamba. Il y a même des entraîneurs qui quittent Lubumbashi ici pour participer à des formations qui se font au niveau de Kinshasa, mm-hmm. et ils rentrent avec des brevets, des diplômes. Mm-hmm. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait des suivis par rapport à la gestion de ces entraîneurs-là. Et au-delà de ça, M. Gilles, si je peux encore continuer, il faut qu'il y ait plus de clientèle. C'est-à-dire qu'au niveau de la CAF, il y a eu un certain clientélisme qui a eu à préjuger d'autres pays qui devaient aussi avoir le droit d'organiser le championnat africain. Puisque c'est la plupart des pays francophones qui ont été favorisés. Il faudrait que M. Ahmed puisse
voilà, merci.
Un peu pour toutes les fédérations. Mais éviter aussi à ce qu'il y ait, par exemple, les fédérations des pays. Il faudrait qu'on puisse limiter les mandats des présidents de fédérations de pays.
Voilà.
On ne peut pas parler de notre président de la fédération. Nous avons aussi besoin de l'alternance. Quand même cette alternance a été bafouée dans la politique ici en RDC.
Merci beaucoup. Là, vous rejoignez donc directement ce que venait de dire notre invité sur l'équilibre dans l'attribution des compétitions à des pays. Voilà. Donc, il y a également les problèmes que vous venez d'évoquer là, des entraîneurs qui ne sont pas considérés dans leur club. Voilà. Là également, c'est un défi à relever par le nouveau président. Et vous estimez, vous également, que c'est là l'alternance qu'on a vécue au niveau de la CAF, au sommet de la CAF, pourrait avoir aussi fait au niveau des fédérations locales. Merci beaucoup. Isaac, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR, bonjour également à l'invité Kabalamon Amboui.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Isaac?
Alors, je commencerai tout d'abord à saluer la montée d'Ahmad Ahmad au niveau de la CAF, mais je crois que ce monsieur aura beaucoup de défis à relever. Entre autres, d'abord, au niveau de différentes fédérations. Vous savez, JR, au niveau des fédérations telles que la FEMAFOOT au Mali, qui a vu leurs équipes être débarquées de la compétition africaine, donc il faudra un peu essayer de chercher à remettre de l'ordre. Tout de même, nous ne pouvons pas comparer Ahmad Ahmad avec Issa Yatou, car Issa Yatou a fait plus de 30 ans et il a mis la barre très très haut. Et il n'est pas sain, on doit patienter et voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais un élément très capital qu'a soulevé mon prédécesseur, Maître Sonville, c'est le problème des mandats. Il faudra également que les Africains apprennent à limiter au moins le nombre des mandats. Je ne sais pas si Monsieur Ayatou a brigué, si je m'abuse, 5 à 8 mandats. Et c'est quand même aussi beaucoup, mais si on limitait, tel que pour le président de la République, par exemple, dans le cas de la RDC, c'est deux, une fois renouvelable. Donc si on faisait de même au niveau des fédérations de football, ça pourrait, une fois encore, aider l'alternance à chaque fois. Monsieur Kabalamon Amboui a parlé des clubs d'amis. Quand on travaille ensemble pendant de longues années, ça devient comme une histoire de la famille. Et là, ça, ce n'est pas profitable. Fermer la porte aux opposants, fermer la porte aux autres, c'est comme si vous fermez aussi l'apport des autres initiatives, des autres idées. Donc, il y a encore beaucoup de choses. L'Afrique a beaucoup de choses encore à relever. Et M. Ahmad Ahmad, nous attendons beaucoup de lui. Mais il ne faudra pas tout de même dire qu'il sera plus meilleur qu'Ayatou. Qu'est-ce que M. Ahmad Ahmad, il a été président de la Fédération Malgache, qu'est-ce qu'il a fait dans son pays? Il a été ministre, qu'est-ce qu'il a mené du football malgache? Donc je crois qu'il y a plusieurs interrogations que nous ne sommes pas prêts à accorder cette pour dire qu'il sera plus meilleur que l'autre. Donc attendons voir, moi en tout cas je reste tout de même un peu sceptique pour la suite des choses. Mais ce que nous souhaitons, bon vent.
Merci beaucoup, Isaac, d'avoir appelé de Kinshasa. On ne peut pas comparer Ahmed Ahmed avec Issa Yatou. 30 ans, ce n'est pas peu de choses. Hein. Je crois que pendant ces trois décennies, Issa Yatou a pu quand même a placer la barre à un niveau très élevé. Et je crois que nous devons attendre un tout petit peu, ça c'est selon vous, pour juger le nouveau président à la tête de la Confédération. Mais un élément important que vous avez pu mentionner, c'est le mandat. Je crois que ça relance les débats sur la révision du statut de la CAF ou encore le règlement intérieur. Club d'amis, oui, parce que quand on fait longtemps sur un poste, autour d'un poste, je crois qu'on se fait quand même d'amis et généralement les travails commencent, on innove plus et puis on fait du surplace. Vous souhaitez qu'on puisse quand même laisser le temps à ces nouveaux venus de travailler et de travailler sur les défis. Eddy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Gier.
Vous pensez que cette élection pourrait avoir un impact sur d'autres fédérations?
Effectivement, parce que les choses ont commencé au sommet, hein, avec le départ de Monsieur Seth Blatter. Et ici, j'aimerais relever une chose. Notre fédération avait voté pour Seth Blatter. Seth Blatter est tombé face à Infantino. En Afrique, notre fédération a voté pour Issa Yatou. Issa Yatou est encore tombé. Maintenant, moi je sens que maintenant, parce que dans notre pays, la fédération, on dirait un club d'amis, hein. Nous pensons que... Allô?
Allez-y, Eddy.
Oui.
Vous pouvez chuter?
J'ai dit, la fédération, c'est comme un club d'amis.
J'ai été surpris une fois quand j'ai suivi l'élection du président de la fédération en Zambie. Monsieur Kalusha Boisselula a été battu. Celui qui avait gagné avait, je crois, 180 quelques voix contre 100 quelques pour Kalusha Boisselula. Donc il y a au moins 300 électeurs. Et dans notre pays, on parle d'une trentaine. Et les trentaines là se connaissent, ils se retrouvent quelque part, ils se disent, moi je prends tel poste, toi tel autre, toi tel autre. Et alors nous voulons qu'avec l'avènement du nouveau président, on puisse quand même demander d'élargir le corps électoral des fédérations nationales pour que dans notre pays, par exemple, nous ayons 300 électeurs. Là, il y aura moins de combines. Et les choses peuvent mieux se faire.
Merci beaucoup, Eddy. Vous estimez que le fait que la RDC, par l'entremise de la Fédération de football, ait voté pour cette dataire et que cela n'a pas produit d'effet. Aujourd'hui, avec Issayatou, nous avons eu à donner notre voix à Issayatou qui a également perdu face au Malgache. Vous craignez que ce printemps puisse se suivre encore jusqu'au niveau de la RDC, mais vous souhaitez vous personnellement que les prochaines élections qui seront organisées au niveau de la Fédération de football congolais, que cela puisse se faire en toute transparence. Merci beaucoup. Georges, vous êtes à Manono, vous gardez la ligne. Il est temps pour nous de revenir à notre invité, Monsieur Pierre-Célestin Kabala Mwalambui, analyste sportif. Monsieur Pierre-Célestin, vous êtes encore en ligne avec nous.
Bien sûr, JR.
Vous avez été membre de l'Association des journalistes de l'Afrique, UGS, si ma mémoire est très bonne, oui. À un certain moment. Donc, vous avez travaillé pendant longtemps. Vous avez été parmi les journalistes qui ont accompagné, au fait, également Issayatou, et aussi la politique du football, de manière générale, pendant plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez nous dire que l'avenir sera meilleur pour le football congolais? Après
oui,
cette élection.
L'avenir sera meilleur pourvu que l'on capitalise tout ce qui se passe devant nous et que l'on comprenne. Eddy vient de soulever quelque chose de très important. Il parle par exemple du respect des échéanciers électoraux et l'élargissement du corps électoral. Plus nombreux nous serons à réfléchir, penser notre football. Et mieux ça vaudra, et plus vaste sera également notre assiette de choix, hein, des contrats, des stratégies de développement de notre football. Et plus sera restreint le cadre de réflexion, et ben, nous évoluerons également en vase clos et en nombre très restreint. Et ceci dit, je voudrais évoquer le cas de notre choix, par exemple, par rapport aux élections au niveau continental. Je voudrais vous dire que c'est malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque Issayatou a été élu pour la première fois, il était en compétition avec monsieur, c'était un Togolais, hein, qui était un grand arbitre. Oui. Et Kinshasa avait préféré prendre monsieur Ekwe comme son candidat. Et nous avions échoué, et c'est monsieur Issa qui était sorti. Mais ce n'est pas pour autant que monsieur Issa avait délaissé Kinshasa. Monsieur Issa avait tout fait pour en faire un ami, parce que je vous appelle que Monsieur Issa est un éducateur physique de formation, et ce qu'il avait fait dans son pays pour son football quand le football devait monter, il s'était inspiré notamment de l'arrêté 004 de Kinshasa. Alors, et il avait continué à entretenir de bonnes relations avec nous. Mais quand il s'est agi de Issa candidat président de la FIFA, Kinshasa avait encore joué en défaveur de M. Issa. Mais M. Issa ne les a pas pour autant laissés tomber. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que nous puissions améliorer et avoir une bonne vision, une bonne lecture de l'évolution des choses dans le monde pour qu'on ne puisse pas toujours être à côté de la plaque. Mais que cela non plus ne soit pas une occasion pour nous embourber dans l'autosatisfaction, parce que maintenant nous avons évidemment l'une des fédérations les mieux considérées, avec le président qui est très bien considéré au niveau de la CAF. Il a des fonctions très importantes, et même au niveau de la FIFA. Il faut en tirer profit pour que l'esprit démocratique qui a élu le missile au-dessus, au sommet, il est également du répondant au niveau de Kinshasa. Mmh. Et l'autre problème évoqué ici qui me paraît très important, c'est le statut des entraîneurs. Je vous assure que nos entraîneurs et sont payés à la petite semaine. Ils sont mal considérés. Vous n'avez qu'à regarder les tirades qu'il y a eu entre les staffs techniques, le secrétaire général du ministère des Sports après l'Ochan, et comme pour dire qu'on ne respecte pas les fonctions des autres, la qualification des autres. Un entraîneur, et je confirme ce que Maître Sonville a dit, nous avons déjà plus ou moins une vingtaine d'entraîneurs qualifiés de haut niveau. Ils en font les preuves. Mais il ne faut pas que l'on continue à considérer les entraîneurs comme des enfants de cœur. Il faut les doter d'un statut normal et qu'ils soient payés à la hauteur de leurs responsabilités. Et que les clubs s'organisent pour un entraîneur, il faut qu'il soit bien payé et non pas envoyer l'argent à ce qu'on appelle les citronniers ou les féticheurs, les comités de recherche au détriment des entraîneurs.
Alors, mais le statut de la CAF, en abordant ces genres de questions sur les conditions de travail de l'entraîneur, est un tout petit peu contraignant et un tout petit peu aussi exigeant, mais on sent tout de même une certaine négligence un peu du côté de la CAF, hein, et surtout sous les règnes, sous les auspices d'Issa et tout. C'est comme s'ils n'étaient pas regardants, parce qu'on voit il y a bon nombre d'entraîneurs qui continuent encore à pleurer, ne sachant à quel ça se vouait.
Oui, cela est vrai, vous dites vrai, mais cela est dû aussi au manque d'organisation des entraîneurs. Ils jouent un peu chacun en solo et ils n'ont pas de solidarité entre eux. Il faut qu'ils soient organisés, il faut qu'ils aient des structures de défense. Et d'ailleurs, pour les joueurs, nous avons déjà une union de footballeurs en Afrique qui défend les intérêts des footballeurs. Il faut que les entraîneurs s'organisent aussi, parce que c'est un métier, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est un métier autant que tout autre. Et il faut qu'ils s'organisent pour défendre leurs intérêts. La CAF a une réglementation à ces sujets, mais elle n'est pas partout. Et cela dépend aussi de la bonne volonté de ceux qui sont à la base. Et les fédérations doivent avoir un regard tout à fait suivi par rapport à cela. De la même manière qu'il faut également se souvenir que pour ce qui est des mandats, que à ce point de vue, la Confédération elle-même avait montré un mauvais exemple en tripatouillant, par exemple, le mandat quand il s'est agi de l'Ivoirien qui était candidat opposé au président Issa Hayatou. Vous savez ce qui s'était passé? On a dû changer l'article portant sur l'élection du président sortant, et c'est comme ça que M. Issa avait continué. Ils ont un peu imité les chefs d'État. Alors, c'est qu'il faut bannir de notre organisation.
Merci beaucoup, Monsieur Kabbalah Mwalambui. On va conclure avec vous dans quelques minutes. Il est temps d'écouter les deux derniers auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, Georges Amanono et Alex Achikapa. Georges, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Oui, c'est bien, je dois d'abord féliciter Ahmad Jama.
Voilà, là on a difficile à suivre, à vous suivre, Georges. Le temps que la ligne s'améliore, on va prendre plutôt Alex Chikapa. Alex, bonjour.
Bonjour, 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 JR.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Alex?
Bon, je pense que je suis très heureux du départ d'Issa Hayatou, puisque je me rappelle qu'il est arrivé à la tête de la CAF en 88. J'étais encore très jeune, on jouait la CAN au Maroc. Je pense que même votre invité était un des reporters à Casablanca ou à Rabat, tout ça. Alors, ça fait tellement longtemps qu'il a été au pouvoir. Bon, qu'on amène un souffle nouveau, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais tout ça est à mettre sur le compte du départ de M. Blatter qui était à la CAF, à la FIFA, puisque votre invité a dit que, bon, tant qu'on fait beaucoup d'années à la tête des fédérations, ça devient un club d'amis. Et puis on se partage les postes. Moi, ce que je voudrais dire ici, le témoignage que je voudrais dire ici, c'est ce qui m'a choqué au moment de la CAN en Angola, l'équipe du Togo avait été mitraillée au Cabinda et la CAF avait maintenu la suspension contre l'équipe du Togo. Je me rappelle que le gardien de l'équipe du Togo avait reçu des balles, je me rappelle, j'ai retenu son nom, c'est Obilale Kojovi. Il est même devenu un petit peu important, mais malgré tout ça, la CAF n'a pas pris en charge ses gardiens et il a été envoyé en France. Ce sont les Français qui l'ont pris en charge. J'espère que avec le nouveau venu, il y aura un peu plus d'humanité autour des joueurs, autour des entraîneurs. Votre invité en a parlé et j'espère que ça va changer. Pour terminer, je demanderai à ce qu'on puisse nous donner une CAN en juin. non pas en janvier, parce qu'en janvier, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de désistements. Vous avez suivi l'équipe du Cameroun, nous-mêmes, il y a des joueurs comme des Afobe qui ne sont pas venus parce que c'était en janvier, il y avait encore les championnats en Europe. Je pense que c'est ce que je peux dire.
Voilà, merci beaucoup Alex. On va prendre le tout dernier alors, Thierry, qui nous a rejoint donc de Bukavu. Thierry, vous êtes à Bukavu.
Bonjour Monsieur Gilles.
Quelle est votre contribution, rapidement?
Rapidement, je pourrais dire que d'emblée, on ne peut pas comparer deux présidents d'une association comme une si grande association comme la CAF. Parce qu'il y a un tout qui a fait 30 ans, il a eu le temps de faire ce qu'il pouvait faire. Le Malgache, il nous a fait des promesses, laissons-lui le temps de mettre en place ce qu'il nous a promis. Moi, je pense que d'avance, on ne peut pas présumer qu'il ne pourra pas faire grand-chose. C'est vrai, Issa Ayatou, il a fait, en 29 ans, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et naturellement, il a eu des défauts, comme toute œuvre humaine, ça c'est normal. Le Malgache en aura aussi, mais laissons-lui le temps de travailler, moi je
merci,
pense.
Merci.
Pour ce qui concerne la RDC, moi je pense que finalement, monsieur, le Malgache va nous aider. Un grand pays comme la RDC, d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, je pense que c'est tout ce que moi je peux demander.
Voilà, je crois que ça peut être possible. Merci, merci beaucoup Thierry. On va, est-ce possible aujourd'hui, Pierre-Célestin Kabala-Molamboui, c'est possible qu'on puisse réintroduire notre candidature à, pour la candidature, je ne sais pas comment on appelle ça dans les jargons du football, notre candidature à la candidature pour l'organisation de la CAN, pour que finalement on puisse l'obtenir comme par le passé nous l'avons retiré.
Bien, JR, je le souhaite de tous mes voeux, mais rassurez-vous que l'attribution a été faite jusqu'à 2026, je crois, et que nous avons laissé passer beaucoup d'occasions pour confirmer notre candidature. Il faudra attendre peut-être avec d'autres dirigeants au niveau national, parce que nous n'avons pas fait preuve de volonté politique d'organisation de cette CAN. Je vous décevrai en vous disant, par exemple, que lorsque l'Américain grand financier qui était venu pour financer la CAN ici chez nous, eh ben ce monsieur a entendu des murs et des pas mûrs, à tel point qu'il a lâché une phrase qui m'est restée et qui sonne toujours dans ma tête. Il a dit, et qu'il a rencontré toutes les autorités, il a trouvé qu'il y avait plus de cavalières et qu'il, dont il ne pouvait pas faire le choix. Il leur a demandé, il a dit, vous connaissez la danse tango et sa danse à deux, alors organisez-vous pour me donner une cavalière, je vous donne la Coupe d'Afrique des Nations. Et on lui a présenté 5 cavalières, et voilà comment il est retourné avec son argent. Alors, si cela pouvait changer, je crois que nous aurons la CAC, monsieur Higère.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Pierre-Célestin Kabala-Molamboui, mais nous rappelons que...
Je suis toujours en ligne, Pierre.
Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme, monsieur Pierre-Célestin Kabala-Molamboui. Nous rappelons que vous êtes analyste sportif et aussi membre, ancien membre donc de l'Union des journalistes africains pour les comptes des sports. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, monsieur Pierre-Célestin.
Oui, merci, merci beaucoup.
Voilà, nous vous quittons en disant merci à Alain Goy, à Nico Kalambay et ainsi qu'à Martin Sebujangui qui ont concouru à la réalisation de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.
Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.